Vous écoutez
RMC.
Les gars, il paraîtrait que la Serie A redevient sexy. Qu'elle est à nouveau séduisante. Alors, tu nous as vendu ça comme thème. On va t'écouter tranquillement, mon cher Daniele. Pourquoi tu vois des signes d'embellissement de ton championnat italien?
Alors, il y a des changements, on va dire, institutionnels et des changements culturels. Institutionnel, c'est un changement dans le... Dans les chefs d'arbitre. L'année dernière, il y avait l'enquête. Après, ça aboutit à rien du tout, mais ça s'est servi à changer les chefs des arbitres. Maintenant, il y a Orsato, qui c'était un arbitre aussi qui laissait beaucoup de courir, et que dans ses interviews, des choses comme il faut siffler les fautes, pas les contacts. Donc, il avait dit que cette année, il allait y avoir moins de fautes. L'année dernière, c'était un cauchemar. Il y avait, à chaque match, il y avait une polémique, il y avait des petites fautes, c'est qu'en Italie, on appelle rigorini, des petites penalties, mais vraiment très petits. Il fallait aller chercher avec la loupe, avec l'inspecteur gadget, quoi. Et là, tout ça, c'est terminé. Dans les premières deux journées, c'est-à-dire, aujourd'hui, ça se termine la deuxième journée, il n'y a eu aucune révision au VAR. C'est-à-dire l'arbitre, il n'a jamais interrompu le jeu, il n'a jamais allé regarder son iPhone pour voir s'il y avait une faute ou pas. Il n'a jamais parlé au stade, ça ne va pas y avoir cette année parce qu'ils ont éliminé ça aussi. Il y a moins de pertes de temps parce qu'on a intégré la règle de la Coupe du Monde de dire aux joueurs par terre que s'ils restent là, pas par terre, il faut rentrer les docteurs. Après, il faudra sortir pour au moins une minute et donc ils se relèvent tout de suite. Et le temps de jeu est augmenté de 5 minutes. Ça,
il ne paraît pas énorme. Effectif, c'est ça.
Le temps de jeu effectif, ouais. C'est énorme si on regarde un match. Parce qu'en Italie, c'était très lent, c'était 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là. Et là, ça fait 5 minutes sur la totalité, mais ça fait beaucoup moins des pertes de temps. Donc il y a ça, et après, il y a les changements culturels. C'est-à-dire, on s'est un peu surpris. On a dit, mais est-ce qu'il y avait autant de jeunes joueurs l'année dernière lors des premiers matchs, parce que les premiers matchs, c'est là où il faut aller un peu doucement, quoi. Il faut attendre pour mettre les jeunes. Normalement, on les met à la fin du championnat. Ben non, là, il y a eu 31 joueurs de 21 ans au moins. C'était les 15% du total. C'est énorme pour l'Italie. L'âge moyen, elle a baissé de la moitié d'un an. Ça aussi, il me paraît pas énorme sur la totalité, mais c'est énorme. Et surtout, il y a beaucoup de jeunes joueurs dans les équipes qui doivent lutter. Les équipes qui, normalement, elles posaient sur des joueurs avec expérience et tout. Mais là, dans n'importe quelle équipe, Monza, Cagliari, ils ont tous baissé leur âge. Même la Roma, elle a baissé son âge. Il y a beaucoup de jeunes joueurs intéressants à regarder. Si c'est chez le Milan, Mora, Mastantuono, on en a parlé la semaine dernière. Pio Esposito, il est pour le moment un titulaire de l'Inter. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est un joueur important. Même Monza, on a dit, il a Gustavo Varela, Matisse Mout, Foye Honda, c'est un jeune français qui joue au milieu terrain. La Juventus, elle a pas fait beaucoup d'achats parce qu'elle a pas pris la Champions League l'année dernière. Mais elle a investi dans Alija Begovic quand même. Les jeunes bosniaques, les plus intéressant. Donc voilà. Et en plus, les équipes, il y a beaucoup moins de 5-3-2. Je ne sais pas si vous l'avez compris l'année dernière, je fais une petite bataille, mais c'est un système de jeu que, moi, je pense, il a ruiné en grosse partie le football italien pour beaucoup d'années. Et là, il commence à y en avoir moins. Parce qu'on a compris que ça suffit pas de se mettre à 5 pour pas en casser des buts. Donc, c'est un jeu un peu plus ouvert. On a vu des matchs 3-2, 4-2. La Roma, elle a gagné les premières deux matchs 4-0. Donc, il y a eu vraiment un championnat un peu plus ouvert, un peu plus offensif.
Ça nous fait plaisir, voilà. Daniel.
Franchement, t'as bien défendu ton truc.
C'est pas mal.
Ouais, mais la semaine prochaine, quand il y aura eu 8-0-0, on te rappellera ce que t'as dit la semaine d'avant.
Bah, écoute, oui, s'il y a ça, je vais.
On est content pour toi. Je crois en toi, Daniel.
Non, je te charrie.
Je crois en ces frémissements.
Non, mais peut-être. Ouais. Non, mais ça, c'est une question. Moi, je me demande, est-ce que ça va durer? Ou est-ce qu'à un certain moment, l'entraîneur de Monza, il s'est dit, au Venezia, qui joue très bien, mais il a perdu les premières deux matchs. Est-ce qu'il va être plus défensif après? On ne sait pas, on va voir.
Ouais, on verra ça. Bon, déjà, l'arrivée de Voltema 2 va faire monter la moyenne de buts chez toi en Serie A, j'en suis convaincu.
Bah ouais, mais est-ce qu'il les mettra en milieu terrain, en Spalletti, comme l'année dernière?
L'intensité aussi, ça.
Ouais, ouais, l'intensité. Parce que quand tu mets De Bruyne, le meilleur joueur depuis 20 ans en Serie A, ça doit faire rire Julien aussi un petit peu là aujourd'hui. Quoi.
Ah bah avec Modric.
Avec Modric, a raison.
Ah oui,
le top 2 en Serie A.
Il faut avoir 40 ans.
C'est des mecs de 40 piges, c'est merveilleux.
Sur Modric, vous vous êtes trompé depuis l'année dernière. Hein.
Luis Castro devait faire couler les 20 T selon Valdemarquita. Tu te rappelles, hein, Edgar hein.
Ah bah c'est raté.
Après avoir fait couler un autre club vers la Ligue 2, il va faire couler les 20 T, regardez bien, avait dit Valdemar. Hier, l'expose du FC Nantes a étrié le Real Betis ballon pied.
Il s'est complètement raté sur sa prédiction parce que non seulement il a fait un sauvetage miraculeux l'année dernière, mais aujourd'hui il continue d'essayer de tirer le meilleur de chaque joueur. Je trouve que c'est ça qu'il définit le mieux, parce que Luis Castro, honnêtement, la situation dont il a hérité l'année dernière en arrivant à Levante était très très difficile. L'effectif, il y avait du talent, mais son prédécesseur n'avait pas réussi à en tirer le meilleur. Lui, il a sorti Espi qui est arrivé derrière au Real Madrid. Il a réussi à sortir cette équipe d'un enfer où tout le monde les annonçait descendre. Et là, il a étrié le Betis à la surprise générale, en fait, parce que avant ce match-là, Levante n'avait pas marqué sur les deux premières journées et le Betis n'avait pas encaissé de but. Et pourtant, il gagne 5-2. T'as du spectacle en continu, t'as du jeu, t'as des occasions. Sur les deux premières journées, ils avaient cadré qu'une seule frappe. Là, ils en cadrent 10. Donc, il réussit à les faire réagir, à les faire gagner à domicile. Et ce qu'il est en train de faire avec cette équipe, c'est très fort. Et surtout, j'ai l'impression qu'il est en train, Luis Castro, de se donner le mérite et le respect qui va lui permettre derrière de pouvoir travailler avec des équipes qui vont avoir plus de moyens, sans manquer de respect à les vanter. Mais je pense qu'il est en train de gagner vraiment cette crédibilité, de se dire ok, s'il arrive à faire ce genre de travail dans ce genre de conditions, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ensuite dans de meilleures conditions, un petit peu à l'image d'un Inigo Pérez par exemple, qui a fait des miracles avec le Rayo et ça lui permet d'aller derrière à Villarreal. Il en est pas là encore, Luis Castro, mais il est en train de vraiment séduire l'Espagne. Il a fait, souvenez-vous, du bon travail en France aussi avec Dunkerque notamment. D'ailleurs, il a repris un ancien joueur de Dunkerque, Enzo Bardelli, qui a mis un lob magnifique ce week-end avec Levante. Donc, c'est vraiment un résultat surprenant, mais aussi une équipe surprenante. Maintenant, je pense que leur problème aussi, ça va être de gagner cette régularité-là et aussi de se solidifier en défense. En première période, par exemple, ils doivent jamais se prendre deux buts face à une équipe. Face au Betis sur ce match-là par rapport à ce que proposait le Betis. Donc ça va être une nouvelle fois un vrai défi pour lui, mais chapeau déjà pour le travail qu'il fait avec cette équipe de Levante, et ils vont se battre, j'en suis sûr, jusqu'à la fin pour se maintenir et peut-être, pourquoi pas, y arriver. En tout cas, ils vont être dans la lutte.
Voilà. J'ai une question pour Edgar.
Vas-y, Julien.
Nico, parce qu'il en a parlé un tout petit peu tout à l'heure de Villarreal dans ses trois faits marquants du week-end, mais on était très excités un petit peu tous de l'arrivée d'Inigo Pérez là-bas après ce qu'il avait fait comme travail. Est-ce qu'on est allé un petit peu trop vite peut-être? Est-ce qu'il va avoir besoin de temps? Ou alors est-ce que nous on s'est trompé un petit peu et il n'était pas forcément prêt déjà pour un club de ce calibre-là?
Villarreal.
Alors déjà, c'est impossible qu'on se trompe, évidemment. Non, mais je pense pas qu'on soit trompé. Non, je pense pas qu'on soit trompé, ou alors vraiment tout le monde s'est trompé, parce que c'est un très bon coach, il l'a montré, et surtout moi. Ouais, bien sûr, oui, mais après trois journées, donc on va aussi leur laisser le temps. Je pense qu'avec cet effectif-là, je vois pas comment il peut pas en sortir quelque chose. Et moi, j'avais adoré leur match, notamment sur la pelouse de l'Atlético, où ils méritaient de gagner et ils ont pas réussi, mais ils méritaient vraiment d'aller chercher la victoire. Je pense que il y a aussi quelque chose qu'il va prendre en compte, c'est que le coach d'avant, c'était Marcelino, et que c'est un entraîneur, très particulier, notamment dans la gestion de l'effectif, dans la gestion du quotidien, qui laissait pas aux joueurs, vous savez, il y a des dynamiques. Sur une saison, t'as un rythme, t'as quelque chose. Lui, il laissait pas ça à ses joueurs, parce qu'il les sortait, il les mettait, c'était difficile à comprendre. Et donc je pense que là ils arrivent avec un coach qui travaille d'une manière très différente et qui va aussi falloir s'adapter. Mais pour l'instant, j'ai du mal à imaginer que Inigo Pérez ne puisse pas faire des choses intéressantes avec Villarreal. Je le disais encore la semaine dernière, je pense qu'il faut lui laisser du temps, et je pense aussi qu'il n'avait pas le même genre de matériel au Rayo, et que lui aussi doit peut-être grandir avec cet effectif-là.
Bon, d'ailleurs, Villarreal qui débutera sa campagne Ligue des Champions sur le terrain du Borussia Dortmund. Ce sera le 8 septembre. Le Borussia, dont on parle dans un instant avec Polo. La minute anglaise, on envoie la musique, Polo.
Elle est déjà dans la playlist celle-là.
Ah oui, bien sûr, tu sais mon gars. Eh oui, Sprinter de Dave et Central Cee. Pour ceux qui aiment le hip-hop anglais, le rap londonien, ils connaissent cette chanson. Déjà, on a déjà beaucoup parlé de Dave et de Central Cee, qui aiment beaucoup le foot aussi. Mais donc Sprinter, alors la chanson elle est pour Sprinter, la camionnette, hein, camionnette dans laquelle il met de l'essence. Mais Sprinter aussi pour Bradley Barcola, qui est aujourd'hui en tout cas pour l'officialisation pardon, de son transfert à Liverpool, a un peu enflammé tout ça. On est très 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 excité côté anglais et notamment côté de Liverpool bien sûr, mais même pour la première ligue, pour le championnat, du recrutement de Bradley Barcola, les Anglais en attendent énormément, parce qu'on a parlé tout à l'heure du recrutement des clubs de première ligue, mais il faut quand même pas oublier qu'ils galèrent un peu nos amis anglais pour aller chercher les plus grandes stars à droite à gauche. Si on regarde bien ces transferts dont on parle, à part le marché intérieur dont on a parlé, mais tu ne vas plus chercher les meilleurs à droite, à gauche, les autres très grands clubs européens. Donc eux voient l'arrivée de Barcola comme un très joli coup, même si ça a coûté très cher, encore une fois, mais c'est le marché qui s'auto-régule. Mais c'est vrai qu'on a vu tourner en boucle les fameux highlight reels de Barcola, les accélérations, les dribbles, les buts, tout ce qu'il avait pu faire avec le PSG sur les deux dernières saisons surtout. Et donc c'est vrai qu'on en parle énormément tout aujourd'hui là sur Barcola. Donc je voulais faire la petite minute pour l'accueillir déjà chez moi, chez nous. Bravo à lui, à Mustapha et à Moussa Sissoko aussi bien sûr, la famille. Et puis dire que tout le monde est très excité de son arrivée dans la première ligue.
Voilà pour la minute de Julien. Tiens, avant qu'on fasse une pause, il y a eu un but entre Dijon et Saint-Etienne. Match de Ligue 2, Fred Joly.
L'égalisation dijonnaise alors que l'AS Saint-Etienne avait pris les devants en inscrivant ce premier but par Ballot. Il menait 1-0 et puis il y a eu cette ouverture dans la profondeur vers Samy Chouchane. L'ouverture est parfaite, le contrôle est millimétré, il ouvre son pied, le milieu de terrain dijonnais, et trompe l'arseneur et remet ainsi les deux équipes à égalité. Un but partout entre Dijon et Saint-Etienne à 2 minutes de la pause.
Et dans les prochaines heures, hein, Julien, voire minutes, Ibrahim Bay, le Parisien, va signer à Aston Villa pour 55 millions d'euros. Aston Villa qui pour l'instant tient en échec Arsenal 0-0 après 27 minutes de jeu.